Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. On le sait bien, à l'échelle mondiale, la liberté de la presse est particulièrement malmenée. Mais en Europe, on croyait les reporters plutôt à l'abri d'une violence dirigée contre la profession. Ce n'est plus le cas. La poussée des mouvements populistes, la violence générée par le coronavirus font que des journalistes dans des pays autrefois épargnés font désormais l'expérience de la violence, qu'elle vienne des citoyens ou soit institutionnelle. Ainsi, en Allemagne, en novembre dernier, lors du grand rassemblement anti-Covid organisé à Leipzig, dans l'est du pays, on a recensé 43 agressions et incidents contre des journalistes. Menaces, bousculades, mais aussi crachats ou coups de poing. Et ces actes, ce qui est peut-être le plus inquiétant, ne sont plus seulement le fait de militants extrémistes. Depuis Berlin, c'est le reportage de Julien Méchaussy.
Lügenpresse, la presse ment. Connue désormais de tous les Allemands, cette expression est née au cours de l'année 2015, lors des protestations de Pegida, des rassemblements anti-réfugiés et ouvertement islamophobes. Aujourd'hui, elle est scandée à chaque manifestation contre les mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie. Des manifestations qui rassemblent jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes et pendant lesquelles les journalistes sont devenus des cibles. Comme le raconte Anne-Catherine Müller, rédactrice du grand hebdomadaire Der Spiegel.
C'était une situation très désagréable. 5 ou 6 personnes ont commencé à m'encercler. Je ne sais plus vraiment combien elles étaient, mais elles étaient très menaçantes. Je me trouvais au milieu, sans possibilité de m'échapper. Ces personnes ont alors commencé à m'insulter, ont essayé de m'enlever mon masque, m'ont traité de pute de Merkel. Et quand j'ai essayé de me dégager de cette situation qui commençait à déraper, un des hommes m'a mis des coups dans les jambes.
L'année 2020 est une année noire pour la liberté de la presse en Allemagne. Jamais autant de journalistes n'ont été victimes d'agressions physiques. 69, selon une étude qui vient d'être publiée par le Centre européen pour la liberté de la presse et d'expression situé à Leipzig. Parmi ces attaques, plus des 2/3 ont eu lieu au cours de rassemblements anti-coronavirus. Martin Hoffmann est l'un des auteurs de cette étude.
Ces personnes considèrent que leur perception de la réalité n'est en aucun cas représentée dans les médias. Leur réalité, mais aussi leur mouvement de protestation, serait déformé par un complot des médias. Il existe de solides études sociologiques qui montrent que 95% des personnes interrogées et qui participent à ces manifestations jugent la couverture médiatique faussée. En d'autres termes, l'écrasante majorité de ces personnes pensent que le peuple est victime d'un immense mensonge organisé par les médias.
Dans la foulée de l'agression dont elle a été victime, Anne-Catherine Müller a fait face à une autre provocation, comme le montrent les vidéos qu'elle a elle-même réalisées avec son téléphone portable. On y voit un homme d'un certain âge qui ne correspond pas vraiment au cliché du militant d'extrême droite faire le salut hitlérien.
Avec ce salut hitlérien dans ma direction, cet homme savait parfaitement ce qu'il faisait. Il voulait me provoquer. Et il ne l'a pas fait qu'une fois. La première fois, je n'ai pas compris. J'étais surprise et aussi choquée. Il y avait juste à côté de nous des journalistes avec des caméras et des téléphones portables, mais aussi des policiers. Mais cela ne l'a pas empêché de refaire le salut hitlérien avec beaucoup de conviction. Et en même temps, il s'est penché vers moi pour me cracher dessus, avec un regard qui voulait dire « Regarde un peu ce que je peux faire ici sans être inquiété ».
Et c'est également ce que pointe l'étude dont Martin Hoffmann est le co-auteur. Ces rassemblements attirent des groupes très hétérogènes, des extrémistes, mais également de nombreux citoyens en colère, non politisés.
Il est devenu très difficile pour les journalistes de savoir d'où peut venir le danger ou l'agression. Nous avons recueilli le témoignage d'un journaliste qui s'est fait taper dessus par une personne âgée avec des béquilles. Ça peut paraître absurde, mais c'est une réalité nouvelle. Des gens qui pourraient être vos voisins n'hésitent plus à vous encercler pour vous taper ou vous cracher dessus.
Un nombre grandissant de journalistes se déplacent à présent sur les manifestations, accompagnés d'un service de sécurité. La majorité des rédactions n'y envoient plus que des journalistes sur la base du volontariat, avec un danger bel et bien présent.
Il y a quelques mois, une poupée à taille humaine a été exposée sur un pont, avec une corde passée autour du cou. Une scène qui mimait une pendaison. Et cette poupée tenait un carton sur lequel on pouvait lire « Presse du coronavirus ». Le message était clair, il s'agissait d'un appel au meurtre contre ces médias qui mentiraient. C'est sûrement le fait d'extrémistes, mais cet exemple montre le danger potentiel de personnes qui veulent renverser le système.
Bien qu'il n'existe pas de chiffres précis, Martin Hoffmann estime qu'une minorité de journalistes porte plainte suite à une agression, souvent par peur d'être encore plus la cible d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux. Anne-Catherine Müller a été convoquée en tant que témoin il y a quelques jours par la police. Choquée par la violence des vidéos qu'elle avait postées en ligne, un citoyen a décidé de porter plainte à sa place.
Et la situation n'est pas bonne en Hongrie pour les médias. C'est la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Mijatovic, qui le dit dans son dernier rapport. Les médias publics sont à la botte du pouvoir. L'autorité des médias n'est pas indépendante. Quant aux médias privés, ils ont pour beaucoup été rachetés par des proches du Premier ministre Viktor Orban. Restent les rares médias indépendants qui ont de plus en plus de mal à travailler. Le pouvoir ne cesse de mettre des obstacles sur leur route, comme nous le raconte depuis Budapest Florence Labruyère.
Le Premier ministre Viktor Orban a trouvé le moyen d'empêcher les journalistes indépendants de travailler. Première règle, ne pas donner d'interview, sauf aux médias pro-gouvernementaux. Les ministres ne parlent pas non plus. Cela permet d'éviter les questions qui fâchent. Viktor Orban donne une conférence de presse par an, une seule, pour fêter la nouvelle année. Certains médias indépendants ne reçoivent pas de carton d'invitation, d'autres sont admis, mais c'est en vain qu'ils lèvent la main. Et quand par hasard un reporter parvient à approcher son micro pour poser une question impromptue à Viktor Orban, ce dernier répond immanquablement « Je ne parle pas aux producteurs de fausses nouvelles ». Deuxième règle, ne pas communiquer de données publiques. Normalement, un journaliste devrait pouvoir obtenir les détails d'un contrat signé par l'État ou les noms de personnes qui ont bénéficié de subventions publiques. Mais quand un journaliste demande ces informations, la loi autorise l'administration à ne pas répondre pendant 3 mois. Passé ce délai, elle refuse très souvent de communiquer les données. S'il veut vraiment les obtenir, le journaliste doit porter plainte devant la justice. En général, les tribunaux donnent raison aux médias, mais cela freine leur travail d'enquête. Un procès peut durer 2 ans. Dans un paysage de plus en plus muselé, où les canaux officiels ne répondent quasiment jamais, l'usage des drones s'est révélé très utile. Grâce à ces engins, des reporters ont pu enquêter sur les propriétés ultra-luxueuses du clan au pouvoir. Mais depuis le 1er janvier, une nouvelle loi limite leur usage. Désormais, un journaliste encourt 1 an de prison s'il diffuse des images prises par drone sans l'autorisation du propriétaire.
Dans les Balkans, la Croatie est sur une pente vertueuse, si l'on en croit les classements internationaux. Le pays est maintenant positionné 59e dans la liste mondiale établie par Reporters sans frontières. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Des slogans comme « Mort aux journalistes » fleurissent sur les murs, sans que leurs auteurs soient poursuivis, comme si le pouvoir était complice. Les journalistes s'inquiètent vraiment d'un climat de haine dont ils sont les victimes, Simon Rico.
Oui, et cela fait même maintenant 5 ans qu'ils alertent sur la dégradation de leurs conditions de travail. Fin 2019, RSF a ainsi publié un communiqué pour dénoncer une série d'attaques et l'apparition de graffitis haineux à l'encontre des professionnels de l'information sur les murs du pays, notamment le slogan « Smrt novinarima », mort aux journalistes, tagué près du siège de plusieurs rédactions croates. Depuis, des reporters ont aussi été insultés et même passés à tabac durant l'exercice de leurs fonctions, tandis que des véhicules de presse ont été vandalisés. Les journalistes du site d'info index.hr, très populaire en Croatie, ont aussi été victimes de menaces de mort, mais la justice a abandonné les poursuites judiciaires contre leur auteur. L'objectif de ces pressions, qui visent surtout celles et ceux qui enquêtent sur la corruption, le crime organisé ou les crimes de guerre, est évident, intimider et décrédibiliser pour dissuader d'informer.
Simon, sait-on qui sont ceux qui s'en prennent aux journalistes ?
Ce sont les groupes qui sont liés à la mouvance ultra-conservatrice et qui ont retrouvé de la vigueur ces dernières années en se posant en défenseurs des valeurs patriotiques et chrétiennes. Une mouvance qui dispose d'influents relais dans toute la société croate et même jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir, notamment grâce au très intégriste clergé catholique local. Leur poids est très fort au sein de la radio-télévision publique croate, où ils ont obtenu le départ de nombreux journalistes trop critiques à leur goût. En Croatie, il faut rappeler qu'insulter la République, son emblème, son hymne national ou son drapeau est passible d'une peine de 3 ans de prison.
Et nous allons parler d'un pays qui est généralement tout en haut des classements internationaux sur la liberté de la presse. Aux Pays-Bas, les menaces envers les journalistes sont devenues tellement pesantes que la chaîne de télévision nationale NOS a fait retirer son logo de tous ses camions satellites. Désormais, quand ils sont en reportage, les journalistes préfèrent se déplacer incognito. Antoine Moutot.
Selon les journalistes de la NOS, les intimidations sont quotidiennes. Insultes, doigts d'honneur, ordures jetées à leur passage, queues de poisson et coups de frein violents sur l'autoroute. Certains d'entre eux n'en pouvaient plus. Et en guise de soutien sur Twitter, de nombreux utilisateurs ajoutent à leur pseudonyme un O rouge, à l'image de celui du logo de la NOS. Inspiré du slogan « Je suis Charlie » après les attentats sanglants de 2015 contre le journal Charlie Hebdo en France, le hashtag « Je suis NOS » avait également fleuri sur les réseaux sociaux. Cela fait en fait déjà plusieurs années que le département d'information de la télévision publique s'inquiète pour ses rédacteurs, caméramans et techniciens. En 2018, déjà, le rédacteur en chef Marcel Relaoff avait annoncé faire désormais appel à des gardes du corps pour protéger ses équipes lors de la couverture de grandes manifestations, comme celle par exemple d'agriculteurs en colère. Pour le syndicat néerlandais des journalistes NVJ, l'ambiance délétère à laquelle la presse est confrontée est notamment due à certains partis populistes et nationalistes qui ont pris l'habitude de qualifier la NOS de télévision d'État à laquelle on peut faire confiance. La direction de la NOS elle-même pointe du doigt la formation nationaliste Forum pour la démocratie. Encore récemment, son chef Thierry Baudet a profité de sa présence sur un plateau de la télévision publique pour qualifier le JT de la NOS de journal fake news. Il y a des raisons de s'inquiéter, notamment en raison de la pandémie. Un paroissien a foncé avec sa voiture sur un rédacteur en train d'interviewer les fidèles d'une église protestante qui rejette les mesures anti-Covid-19 du gouvernement. Et en janvier dernier, en marge de manifestations contre l'introduction d'un couvre-feu dans le pays, des émeutiers ont attaqué un journaliste, lui frappant le crâne avec un pavé.
Là, les chiffres ne trompent pas. En Italie, les menaces contre les journalistes ont bondi de 87% en 2020. Un chiffre que le ministère de l'Intérieur prend d'autant plus au sérieux qu'en général, les actes d'intimidation contre les institutions ont baissé l'année dernière. La situation est particulièrement critique en Sicile, dans le sud du pays, où les menaces contre les professionnels de l'information ont triplé. Parmi les plus virulents détracteurs des journalistes, on retrouve des groupuscules d'extrême droite, mais aussi la mafia. Le jeune journaliste sicilien Paolo Borometti, qui a voulu faire de longues enquêtes approfondies sur la corruption dans son île, en a fait les frais. Il fait partie des 24 journalistes italiens qui vivent sous escorte. Cécile Debarge l'a rencontré.
De Modica à Rome, des profondes campagnes de sa Sicile natale à la capitale italienne, il y a près de 1000 kilomètres que le journaliste Paolo Borometti a parcouru à contre-cœur. C'était à la mi-janvier 2015, il vivait déjà sous escorte policière depuis près de 5 mois.
J'ai 48 procès en cours, 4 condamnations à mort de 3 clans différents. C'est dur de vivre pour la 8e année consécutive sous escorte, c'est dur de vivre dans la peur. De vivre avec l'idée de ne pas pouvoir avoir une famille. De ne pas avoir de compagne, c'est compliqué.
Aujourd'hui, Paolo Borometti a 38 ans. Il est vice-directeur de l'AGI, la deuxième agence de presse italienne qu'il a embauchée au siège à Rome lorsque les menaces se sont faites trop pressantes en Sicile. C'est dans les terres agricoles et pittoresques de la pointe sud-est de l'île qu'il a commencé sa carrière, couvrant l'actualité locale pour plusieurs journaux.
À l'époque, en 2012, en Sicile, j'avais des collaborations pour des journaux qui n'avaient aucun espace pour les enquêtes. Donc, avec certains collègues, on a décidé de fonder une vraie revue journalistique et de l'appeler la Spia, l'espion, parce que c'était une des choses qu'on nous disait, qu'on était des espions.
Un journal indépendant entièrement en ligne consacré aux enquêtes de profondeur, le projet de Paolo Borometti et de ses collègues inquiète dans des terres où les mafias agricoles prospèrent dans le silence absolu depuis des dizaines d'années. Rapidement, des offres de soutien financier leur parviennent.
Quand au début on a créé cette revue, des sponsors nous ont appelés et l'un d'eux, très important, s'occupait des privatisations des cimetières en Sicile. Ils ont dit « Nous, on vous soutient, mais attention, vous aurez un regard bienveillant sur nous en échange ». Dès que j'ai entendu ça, je me suis bloqué et j'ai répondu qu'on laissait tomber.
Les collègues tombent d'accord. La seule personne rétribuée sera le webmaster du site, via un sponsor qui le paie directement. Leur indépendance est garantie, les premiers articles sont publiés. Pression lors des campagnes électorales pour influencer les votes, conseils municipaux dissous pour infiltration mafieuse, argent sale et mainmise de la mafia sur l'agriculture de la région. Ils décrivent le quotidien souvent invisible d'une terre où la mafia se taille une part conséquente du marché. C'est le début des pressions, puis des menaces qui augmenteront crescendo.
Quand j'ai été agressé le 6 avril 2014, que mes agresseurs m'ont laissé pour mort, par terre, avec les épaules complètement fracassées, ils m'ont dit « Si tu ne te mêles pas de tes affaires, ce qui vient de se passer, ce n'était qu'une première. » C'est ce qu'on appelle un avertissement.
Puis c'est son appartement qui est incendié, faisant flamber une partie de l'immeuble. La mise sur écoute de criminels locaux confirme ce qui semblait évident. La mafia veut réduire Paolo Borometti au silence. En août 2014, il n'a pas le choix. Il est placé sous escorte, car se mêler de ses affaires, comme l'ont suggéré ses agresseurs, n'est pas une option.
Cette phrase me revient toujours en tête. Et pourtant, j'ai décidé de lutter pour défendre mes rêves et de choisir moi-même ma vie, que personne ne peut choisir pour moi. Je défendrai cette liberté jusqu'à mon dernier souffle.
Ce choix, c'est celui de ne pas sacrifier sa liberté de parole et de penser au prix de sa liberté physique, au prix aussi d'un isolement qui l'a profondément blessé.
On a tout dit de moi, que la mafia n'avait rien à voir dans tout ça. Puis, quand on a eu connaissance des écoutes téléphoniques, puis qu'il y a eu des procès, alors on a commencé à dire que de toute façon, je n'avais rien écrit de spécial. Puis quand les juges ont écrit noir sur blanc que les menaces que j'avais étaient dues à ce que j'écrivais, alors là, ils ont commencé à dire que j'étais antipathique, comme ceci, comme cela. On a tenté de me décrédibiliser à tout prix. Moi, j'ai toujours dit, ne parlez pas de Paolo Borometti, parlez de ce qu'a écrit Paolo Borometti.
On pense alors aux critiques souvent extrêmement violentes qu'a reçues et que reçoit encore l'autre journaliste anti-mafia Roberto Saviano. Journaliste napolitain qui vit sous escorte après ses enquêtes sur la Camorra, qui ont inspiré le film Gomorra, son personnage public est souvent raillé et les révélations de ses enquêtes souvent peu commentées.
On est tous très forts pour se souvenir de ceux qui ne sont plus là. On est bien moins forts pour soutenir et défendre ceux qui sont encore en vie et combattent chaque jour pour l'article 21 de la Constitution, celui sur la liberté d'expression. L'article 21 de la Constitution n'est pas seulement le droit du journaliste à informer, mais surtout le droit du citoyen d'être informé.
Si de gros médias ont ensuite repris le contenu de son travail, s'il officie actuellement au sein d'une importante agence de presse, le site d'investigation locale de ses débuts, la Spia, qu'il dirige encore, a dû considérablement réduire la voilure. D'une vingtaine de collaborateurs, ils ne sont plus que 4 ou 5.
Dans ce pays, on a toujours été attentif à la mafia par période. Chaque fois qu'il y a eu une attention particulière portée au phénomène mafieux, c'était parce qu'il y avait eu un attentat ou un événement particulièrement marquant. Quelque chose qui montre le visage le plus dur de la mafia. Malheureusement, les mafias opèrent dans le silence et pas lorsqu'un événement défraie la chronique.
Quand l'espace médiatique ne suffit plus, c'est auprès des élèves et des étudiants que Paolo Borometti continue de témoigner. Il ne représente pas seulement le futur, estime-t-il, mais surtout le présent de l'Italie.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux.